Bon réveil avec Europe 1, il est 8h.
Je regrette tout ce qui s'est passé. On était divisés avec les restaurateurs par un malentendu et on veut mettre ça derrière nous. 300 millions pour les 15 000 restaurateurs pour qu'on puisse accompagner la relance.
C'est un chèque à 9 chiffres que vient d'annoncer en exclusivité sur Europe 1 le groupe AXA. 300 millions d'euros pour solder le litige avec les restaurateurs. Explication dès le début de ce journal. Julie Douib était devenue un symbole. Le retentissement de son assassinat il y a 2 ans en Corse avait conduit au Grenelle des violences conjugales. Il faut que ça cesse, implore sur Europe 1 le père de la victime alors que le procès débute aujourd'hui. Et puis faut-il taxer les téléphones reconditionnés comme s'il s'agissait de produits neufs? Le monde de la culture veut préserver le pactole de cette taxe, mais les acteurs de l'économie circulaire s'insurgent. Le journal de Roland Garros à suivre et votre interview politique. Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À 10 jours du premier tour des régionales, les sondages donnent une confortable avance à Thierry Mariani. Renaud Muselier va-t-il payer son rapprochement avec la majorité? Il est mon invité, le président candidat LR de la région Sud. Rendez-vous 8h15.
Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h avec François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Au regard d'un contrat d'assurance, une pandémie est-elle une épidémie? C'est la question à 300 millions d'euros, montant annoncé il y a un quart d'heure en direct et en exclusivité sur Europe 1 par le patron d'AXA. Alors dites-nous Emmanuel Duteil, bonjour.
Bonjour.
Dites-nous ce qu'il y a réellement derrière cette très grosse offre mise sur la table.
Eh bien c'est très simple. 3000 agents AXA vont appeler là d'ici quelques jours, d'ici la mi-juin, 15 000 clients restaurateurs. Ils vont leur proposer quoi? Ils vont leur proposer une transaction. C'est-à-dire contre 20 000 euros en moyenne, alors certains diront ça fait peut-être pas beaucoup, mais quand même contre 20 000 euros en moyenne pour chaque restaurant, le professionnel s'engage à abandonner tout recours contre l'assureur. Même les restaurants qui n'ont jusque-là rien demandé, ou même les restaurateurs qui ont perdu contre l'assureur sont concernés. C'est un geste quand même très fort et massif, annoncé ce matin en exclusivité sur Europe 1, mais c'est un geste, il faut bien le reconnaître aussi, contraint. Des dizaines de procédures sont actuellement en cours contre l'assureur et les décisions de justice sont pour le moment assez aléatoires. Mais avec cette enveloppe mise sur la table ce matin, AXA espère mettre, comme le dit le patron d'AXA, derrière lui toutes ces affaires qui, là encore, sont extrêmement néfastes à son image.
Précision et commentaire à chaud d'Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, et l'interview de Thomas Buberl, le patron du groupe AXA, est à retrouver sur europe1.fr.
8h03 sur Europe 1, c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de l'assassinat de Julie Douib, tuée par balle chez elle en Corse en mars 2019.
Un crime qui avait saisi l'opinion. Le déclic aura été politique aussi avec le Grenelle des violences conjugales quelques mois plus tard. La victime avait déposé plainte 6 fois pour menaces, harcèlement, violence. Aujourd'hui, le père de Julie Douib, Lucien, espère que l'accusé, Bruno Garcia Cruciani, sera condamné à la peine maximale.
Moi, j'attends aucun mot de sa part. Je veux juste entendre le 16 au soir la sentence. Voilà, je ne veux pas entendre qu'il me raconte pourquoi, comment, si Julie était comme ça ou pas comme ça. Il a tué ma fille. C'est tout ce qu'il y a à voir. Et il y a un coupable, c'est lui. Donc, il peut me dire ce qu'il veut, ça m'est égal. Julie ne reviendra pas, de toute façon, c'est clair. Mais si, encore une fois, l'histoire de Julie a fait qu'on parle un peu plus des féminicides, et qu'aujourd'hui, c'est le mot qu'on emploie, eh bien, tant mieux, parce qu'il faut que ça cesse, quoi. Il faut quand même qu'on comprenne que ce n'est pas possible que... On ne peut pas laisser sortir des femmes du commissariat de police sans les protéger. Et Julie a fait tout ce qu'il fallait. Elle a quand même porté 6 plaintes, 5 mains courantes, et elle est ressortie à chaque fois comme si rien n'était. C'est ça qui est pénible, c'est d'entendre tout le temps la même chose. Porter plainte. Plainte remonte pas, ou on n'en donne pas suite. Mais quand une femme, elle vient porter plainte pour des menaces de mort où elle se sent en danger, c'est pas n'importe quoi. Il faut les protéger, il faut les sortir de là, il faut trouver une solution. Je suis pas quelqu'un qui en veut à toute la police, toute la gendarmerie. Il y a des gens qui ont fait leur travail. Moi, j'en veux à ceux qui ne l'ont pas écouté et qui ne l'ont pas pris au sérieux.
Témoignage Europe 1 recueilli par Marion Dubreuil.
Procès qui s'ouvre quelques heures après les conclusions du rapport sur un autre assassinat. Mérignac, il y a un mois, elle s'appelait Chaynez, blessée par balle puis brûlée vive. La police, la justice, l'administration pénitentiaire, il y a eu des dysfonctionnements tout au long de la chaîne pénale. Le rapport montre comment on a manqué plusieurs chances de protéger la victime de son bourreau.
La diplomatie à la une également ce matin avec la première tournée européenne de Joe Biden.
En rencontrant Boris Johnson mais aussi Vladimir Poutine, le président américain va envoyer des messages, Jean-Sébastien Soldaini, notamment sur l'OTAN.
En fait, c'est un voyage pour dire que l'Alliance Atlantique a survécu à Trump. 4 années d'amour vache qu'il faut effacer. Et pour ça, Joe Biden se plie à une tradition. Première visite en Grande-Bretagne pour insister sur la special relationship, la relation particulière qu'entretiennent les deux pays. C'est incontournable pour Biden, mais pas suffisant, car c'est toute l'Europe qu'il faut rassurer, notamment sur un point, le climat, l'accord de Paris et la façon dont les USA entendent repartir du bon pied. Pour ça, il a calé toute une série de rencontres en tête-à-tête à Bruxelles avec les dirigeants européen, signe qu'il veut prendre son temps pour discuter avec chacun. La Grande-Bretagne, l'UE, l'OTAN, Joe Biden marque sa volonté de ne rien céder aux autres grandes puissances. Juste avant de décoller de Washington, il précise que son voyage consiste à faire savoir clairement à Poutine et à la Chine qu'USA et Europe sont soudés. C'est sa façon de donner le ton avant sa rencontre de mercredi avec le président russe, Navalny, Biélorussie, Ukraine. Les points de friction sont nombreux. Ils font que cette rencontre a valeur de test, savoir si États-Unis et Russie sont encore capables de se comprendre à défaut de s'entendre.
Jean-Sébastien Soldaini, c'est une proposition de loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Mais l'article 14 bis B fait polémique. Il concerne les smartphones reconditionnés, autrement dit des produits d'occasion remis en état. Avec cette question, faut-il les taxer et financer ainsi le monde de la culture, Clément Le Saffre ?
Oui, cette taxe, c'est la redevance sur la copie privée. Elle est prélevée depuis 1985, à la base sur les disquettes et les CD, et maintenant sur les téléphones portables et les clés USB. Bref, les supports permettant de dupliquer pour son usage personnel une chanson, un film ou une série. Cette taxe a rapporté 273 millions d'euros l'an dernier, recettes qui financent le monde de la culture, notamment les festivals. Aujourd'hui, la redevance ne concerne que les appareils neufs, mais le gouvernement a déposé un amendement pour inclure les téléphones et les tablettes reconditionnée. La taxe atteindrait au maximum 8 euros sur un smartphone remis à neuf. Une aberration pour Thibaut Delazor, cofondateur de Back Market, le leader français du secteur.
Ajouter cette taxe, clairement, ça va amoindrir, voire supprimer plusieurs milliers d'emplois de reconditionneurs français puisqu'ils ne pourront pas absorber cette taxe. C'est complètement impossible, c'est une filière naissante. Et cette taxe, évidemment, elle sera payée par le consommateur qui n'a pas l'argent. Hein. C'est la raison numéro un pour laquelle on consomme reconditionné. C'est le pouvoir d'achat et c'est l'incapacité à s'acheter le produit neuf.
Et les reconditionneurs sont soutenus par les associations de consommateurs, notamment l'UFC Que Choisir et Emmaüs Connect. Elles dénoncent le risque que cette taxe aggrave la fracture numérique.
Et en face, il y a cette tribune de 1600 artistes, dont Nathalie Baye, Jean-Louis Aubert et Benabar, parus dans le JDD.
On l'attend depuis un an. L'Euro 2020, il arrive en 2021 et c'est demain.
Nous sommes à la veille de Turquie-Italie, match d'ouverture à Rome, où l'on vous retrouve en direct. Simon Rubin, bonjour.
Bonjour.
Rome, une ville très déconfinée.
Ah, c'est ça, la première chose que j'ai notée en arrivant ici à Rome hier soir, c'est l'absence de contrôle sanitaire. Personne ne vérifie la température à la descente de l'avion, ni les attestations, ni les tests qui sont pourtant demandés en amont. Un relâchement en général visible en centre-ville. Martha est commerçante et elle a remarqué qu'avec l'arrivée de l'euro, la vigilance Covid est moins forte.
Par rapport au début de la pandémie, ça n'a plus rien à voir. Mais quand il s'agit de foot ici, on est prêt à tout. On met un écran géant sur la place, du public dans les stades, c'est comme ça. Ça va faire du bien à l'économie, mais sur le plan du Covid, je ne sais pas ce qu'il se passera.
Une inquiétude qui ne pèse pas lourd face à la joie de retrouver le football. Victor, lui, sera au match demain parmi les 16 000 fans qui ont eu un billet et le stade ne sera rempli qu'à 20% de sa capacité.
C'est une bonne chose de retrouver du public dans les stades, de voir que les choses reprennent leur cours. Si on respecte les règles, il n'y aura pas de problème. Moi, je suis content. Le stade me manque. Ça fait un an et demi que je n'y suis pas allé.
Vous l'aurez compris, un Rome veut profiter de l'euro pour respirer, pouvoir retourner au stade, profiter de la fan zone installée sur la grande place di Popolo. D'ailleurs, depuis avant-hier, le couvre-feu a été repoussé jusqu'à minuit ici.
Simon Rubin, envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Et puis, ne manquez pas, ce soir, un anniversaire. Les 40 ans d'Indochine, interview, live, exclusivité et archives, soirée spéciale dès 20h dans Musique avec Émilie Mazoyer sur Europe 1.
Oui, avec un document sonore inédit d'une heure et une heure de live ensuite, concert enregistré dans le studio Belmar d'Europe 1.
Europe 1, le journal de Roland Garros.
Bonjour Corinne Boulou.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
C'est un match.
Djokovic.
Oui, jusqu'à la dernière coupe, vraiment était un match très très difficile pour tous les deux joueurs.
Un cri libérateur dans la nuit de Roland-Garros. Ce hurlement, c'était celui de Novak Djokovic, un peu avant minuit pour marquer sa victoire sur l'Italien Berrettini en 4-7. Un quart de finale débuté en public et terminé à huis clos.
Et oui, après le couvre-feu, grande première pour le jeu de dames du jour.
Oui, la tenante du titre a été éliminée. Les quatre demi-finalistes du jour se retrouvent pour la première fois dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. La mieux classée est la grecque Maria Sakkari, 18e mondiale. La moins bien classée est 85e. Il s'agit de la Slovène Zidanček.
Le chiffre du jour, c'est 14.
Comme la 14e demi-finale de Rafael Nadal à Roland-Garros, sa 35e en Grand Chelem. Face à lui, demain, Djokovic disputera sa 11e demi à Roland-Garros et sa 40e en Grand Chelem.
Au programme cet après-midi à partir de 15h, place aux demi-finales du tableau féminin.
C'est une équation à quatre inconnus. Qui de la Russe Pavlyuchenkova opposée à la Slovène Zidanček ou de la Grecque Sakkari face à la Tchèque Krejčíková se hisseront en finale? Sans doute celles qui géreront le mieux cette situation inédite, comme le reconnaît notre consultant Cédric Pioline.
Complètement dans l'inconnu pour ces joueuses qui découvrent cette altitude. Évidemment que si elles se retrouvent en demi-finale, c'est qu'elles sont en forme, qu'elles jouent bien. Mais là, on rentre dans la dimension aussi mentale, psychologique, comment on gère l'événement, comment on l'aborde. Ou alors, il peut y avoir aussi, comme l'année passée, par exemple, pour la jeune polonaise qui avait gagné, une forme d'inconscience où on est jeune, on surfe dessus, on ne se rend pas trop compte. Mais je ne pense pas que ça va être le cas pour ces joueuses qui sont un peu plus âgées.
À noter enfin la demi-finale de la paire française Mahut Herbert cet après-midi dans l'épreuve de double, Sébastien.
Eh oui, parce qu'ils sont toujours là, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. On va les suivre avec vous tout au long de la journée, Corinne Boulou, depuis Roland-Garros, radio officielle, Europe 1, radio officielle, bien sûr, du tournoi. 8h13 sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
À suivre, Sonia Mabrouk et son invité politique ce matin, le président de la région Sud, Renaud Muselier.
Europe Matin,
le 7-9.
Sébastien Krebs.
8h16, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité en direct depuis Marseille, le président de la région Sud, candidat à sa réélection, Renaud Muselier.
Bienvenue à vous et bonjour Renaud Muselier.
Bonjour à vous, belle journée.
Dans l'actualité nationale, une réunion s'est tenue hier à l'Élysée sur le thème de l'immigration à l'initiative d'Emmanuel Macron. Alors à quelques mois de la présidentielle, est-ce que selon vous c'est de la communication ou bien vous croyez en la volonté présidentielle de prendre ce sujet à bras-le-corps ?
Bah mieux vaut tard que jamais. C'est un problème récurrent. Un certain nombre de propositions ont été faites par le candidat Macron à l'époque pour faire en sorte qu'il y ait un retour pour tous les immigrés et qui sont en situation illégale, rapide, humain et efficace. Et on en est loin puisqu'il y a 15% de ceux qui sont en situation irrégulière et qui ont été pris, qui sont renvoyés chez eux.
Ce sujet, comme celui d'ailleurs de la sécurité, c'est une compétence régalienne, mais qui compte aussi pour les régionales. Thierry Mariani affirme qu'il sera un rempart contre l'insécurité dans la région. Est-ce que vous avez ce matin, Renaud Muselier, une proposition emblématique sur ce sujet de la sécurité que vous mettrez en place si vous êtes élu ?
Oh, j'en ai plusieurs.
Une emblématique ?
Une emblématique, avoir une convention avec l'État qui nous permette d'investir pour aider les forces de l'ordre. Nous avons aujourd'hui voté plusieurs délibérations à hauteur de 10 millions d'euros qui ont systématiquement été attaquées au tribunal administratif et qui nous empêchent d'aider. Donc ça nous permet d'investir près de 10 à 15 millions d'euros par an. Parallèlement à ça, c'est finir la sécurité dans nos trains, mais nous avons 92% de nos trains qui sont sécures et on a une nette amélioration, et 100% de nos lycées qui sont sécurisés. Donc il y a trois actions derrière qu'il faut mener. C'est une grande cause régionale contre le harcèlement scolaire. Ça, on peut jouer avec les procureurs, avec les proviseurs, excusez-moi, dans les lycées, à cause de ce harcèlement permanent. Nous avons la possibilité de mettre en place des boutons d'alerte pour les violences intrafamiliales, notamment pour les femmes battues, j'ai quelqu'un sur ma liste qui est spécialiste en la matière, ce qui permet d'avoir une géolocalisation. Et puis après, il faut venir en soutien au gouvernement pour la chaîne pénale. Il nous manque 15 000 places de prison. Je demande un avenant dans le contrat de plan État-Région pour en construire 1500 chez moi. Et parallèlement à ça, faire en sorte qu'il y ait les travaux d'intérêt généraux qui puissent être appliqués. Et je me suis entendu avec le procureur pour débloquer 500.
Là, c'est tout le programme que vous nous déroulez.
Non, c'est des mesures très emblématiques qui nous permettent dans le dernier volet, c'est le Centre républicain d'éducation et d'éloignement, qui est un, voilà. qui est un mixte entre l'internat, le service militaire.
Alors,
et
vous mettez en avant notamment cette mesure, Renaud Muselier, mais les derniers sondages, et en particulier l'enquête Ipsos Crédit, Thierry Mariani, de 41% des intentions de vote au premier tour, loin devant vous, à 34%. Alors, vous allez me dire que ce n'est qu'un sondage à l'instant T, mais est-ce que votre stratégie avec la majorité n'est pas en train d'être déjà invalidée?
Écoutez, je pense plutôt le contraire. Pourquoi je pense le contraire?
Quand vous voyez les mêmes sondages, vous voyez le contraire. Comment vous l'expliquez?
Quand vous regardez l'état des lieux de la vie politique dans la région, la droite n'a jamais dépassé 27% depuis 1998 dans les 5 élections régionales. Et là, je suis donné entre 34 et 37% dès le premier tour. Monsieur Estrosi, quand j'étais avec lui la dernière fois, nous étions à 27 et nous avions 15 points de retard, c'est-à-dire exactement le chiffre du sondage de Marion Maréchal Le Pen, qui faisait 41 à l'époque.
Oui, mais avec une différence majeure aujourd'hui, monsieur Muselier, c'est que le problème que vous rencontrez, ce n'est pas tant le RN en tant que tel, mais c'est que Thierry Mariani est un ancien de l'UMP, et ça c'est un argument pour de nombreux électeurs de droite.
Oui, mais il ne fait pas plus que Marion Maréchal Le Pen. Ils sont donnés à 41. Elle avait fait 41, lui était donné à 41 aujourd'hui. Et dans les sondages, il donnait entre 39 et 41. Donc il n'y a globalement pas de plus-value. Si ce n'est que c'est une vraie prise de guerre de Madame Le Pen, et que derrière lui, vous avez son directeur de campagne, par exemple, M. Vardon, qui est un ancien membre d'Unité Radicale, qui est le groupe qui a essayé d'assassiner Jacques Chirac le 14 juillet 2002. Et aujourd'hui, il fait partie du bloc identitaire.
Ce que vous dites ce matin, pardonnez-moi, un électeur de droite récalcitrant généralement à voter pour le parti de Marine Le Pen, mais qui est rassuré par une figure comme Thierry Mariani, parce qu'il y en a beaucoup, y compris des sympathisants et militants de droite qui sont dans cette situation.
Ceux qui sont tentés par M. Mariani doivent réaliser à quel point il a abandonné Valréas, abandonné le Vaucluse. Il vit aujourd'hui à Paris. Il a abandonné sa circonscription, il a abandonné la France pour être député des Français de l'étranger, battu par les députés français de l'étranger.
Abandonner la France pour être député, oui.
Il a abandonné sa circonscription et la France pour être député des Français de l'étranger. Il a été battu en finissant quatrième aux dernières élections et n'ayant plus d'emploi, plus de salaire, il s'est fait racheter par Madame Le Pen pour être député européen et changer de casaque.
Mais donc, sur le fond des idées, des convictions, quelle différence entre vous et Thierry Mariani sur le fond des idées?
Ben là déjà c'est une grosse conviction. Hein. C'est-à-dire que lui, quand moi j'étais avec M. Chirac et M. de Villepin aux Nations Unies pour lutter contre les Américains qui envahissaient en Irak à l'époque, quand j'étais ministre, lui allait voir M. Saddam Hussein. Quand lui dit que dans son programme il va mettre la sécurité partout et éradiquer l'islamisme, il va falloir qu'il nous donne la clé aux responsables du monde avec ses petits bras musclés dans la région, c'est pas dans sa capacité. Et quand lui-même, sur le plan des idées, était reçu par le grand moufti de Syrie en 2011, c'est quand même le grand moufti qui disait « Je dis à toute l'Europe, nous préparerons des martyrs parmi ceux qui vivent déjà parmi vous. »
Et vous,
donc,
concernant
il est copain avec
Muselier,
tous les dictateurs de la planète.
Certains disent que la vraie différence, c'est que vous, vous êtes désormais LREM compatible, que vous seriez la droite molle. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
C'est bien la première fois qu'on me traite de mou, hein. Non, moi je suis LR, je suis fidèle à ma famille politique, j'en ai jamais changé. Je suis dans la ligne du parti gaulliste, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, je les ai servis. Je sers mon pays, je sers ma France, je sers bien entendu ma région, et je n'ai jamais varié.
Ouais, mais
c'est plutôt des gens qui sont muselier compatibles. Et moi je soutiendrai Barouin au présidentiel s'il est candidat.
Oui, voilà, mais alors, jusqu'où va la compatibilité avec Renaud Muselier? Parce que s'il y a un front républicain, est-ce que vous accepterez, monsieur Muselier, les voix des socialistes s'il faut en prendre sur votre liste en vue du deuxième tour? Est-ce que, pour conserver la région, vous ouvrez les bras à tout le monde, y compris à la gauche?
Mais la vie politique est faite d'additions, elle n'est pas faite de modifications de liste.
C'est à l'infini les additions pour vous?
Quand les Arméniens à Marseille me soutiennent parce qu'ils ne peuvent pas supporter M. Mariani, qui est le copain d'Aliyev, je ne vais pas leur dire non. Quand les Israéliens, le peuple juif de France, quand me soutiennent, je dis merci. Quand le monde de la culture me soutient, je ne vais pas leur refuser.
Non, mais bien sûr, mais on imagine qu'avec la culture et d'autres, vous avez des proximités. Mais est-ce que là, par exemple, avec les socialistes et la gauche, vous dites, quelles que soient vos différences, oui, je dis oui à tout le monde pour conserver la région?
S'ils veulent voter pour moi, c'est bien, non?
Mais alors, quelle cohérence, plus largement?
Mais quelle cohérence? J'ai un programme qui est fixe. J'ai un bilan qui est incontestable et peu contesté. J'ai une équipe absolument remarquable. Avec, parce que je suis un décentralisateur, j'ai 19 présidents d'Interco, 35 maires. J'ai le président du comité régional olympique.
Thierry Mariani dit que vous avez une armée pour votre communication. Vous allez porter plainte d'ailleurs contre lui? La plainte est déposée?
Mais bien sûr, lui, c'est le spécialiste des fausses rumeurs et des mensonges. Donc forcément, moi j'ai une bonne équipe, j'ai un bon programme, et je demande aux personnes qui votent, aux électeurs, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, qu'ils soutiennent mon équipe et mon programme. Et je ne vais pas leur dire de ne me soutenez pas quand même.
Bien sûr, mais il y a la question de la cohérence, j'insiste là-dessus, parce que lorsque Christian Jacob...
La cohérence, je suis de droite, je suis LR, j'ai un bilan, une équipe, un programme. Et que dans ce bilan, cette équipe et ce programme, je souhaite que pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 5 millions d'habitants, 6 départements, au lendemain d'une crise sanitaire mondiale, il y a une crise économique et sociale qu'il faut traiter. Je suis en mesure de traiter cette crise économique et sociale, oui, compte tenu de mon expérience.
Mais vous avez passé cette année de pandémie.
Vous avez passé cette année de pandémie,
M. Muselier, à critiquer, par exemple, les choix du gouvernement. Pour les rejoindre, quand il y a une élection, y avoir un embrouillamini dans la tête des militants et sympathisants de votre camp.
J'ai critiqué M. Véran. J'ai salué l'action.
Oui.
Oui, mais j'ai salué M. Le Maire. J'ai fait en sorte, en tant que président des régions de France, que nous puissions, l'ensemble des présidents, signer nos contrats de plan et d'avenir auprès du Premier ministre. Mais ce n'est pas pour ça que je suis devenu macronien ou macroniste, ou soutien du gouvernement. Je suis un régionaliste, je suis pour ma région d'abord. Et en fonction de ça, j'ai des responsabilités. Dans ces responsabilités, quand je traite le Fonds de solidarité nationale pour la totalité des entreprises de la région, je ne critique pas le gouvernement.
Donc vous dites la région d'abord, oui, la région d'abord, et les Républicains toujours ? Ça peut être un slogan.
La région d'abord et les Républicains. Je suis républicain et parfois quelques hommes critiquent chez eux. Parce qu'ils sont au niveau national, au Parlement. Je n'ai pas de député, je n'ai pas de ministre sur ma liste. Je n'ai que des gens qui sont 100% de territoire pour la région d'abord. Mmh. Et donc je suis républicain. J'en ai jamais changé, j'en partirai pas.
Mais est-ce qu'il y a un pilote encore dans l'avion chez les Républicains ? Et là je vous parle du plan national alliance avec LREM ou alliance avec le RN, candidature indépendante ou d'ouverture, primaire ou pas primaire, barrage républicain ou union des droites. Franchement... pauvres militants, sympathisants LR, il faut s'accrocher pour comprendre ce qui se passe dans le parti aujourd'hui.
Alors la façon dont vous le présentez, vous avez raison. En réalité, nous avons quand même une structure politique qui existe, avec un patron qui est M. Jacob. Ce patron, M. Jacob, s'appuie sur des élus locaux qui sont nombreux, et sur une force politique existante. Pour autant, nous n'avons pas de candidat à la présidentielle. Oui. Donc il est temps de le désigner rapidement, de façon à sortir de cet embrocade.
Mais vous avez vu, M. Muselier, qu'il faudra attendre les enquêtes auprès de 15 000 personnes publiées à la rentrée pour indiquer qui pourrait être à droite le candidat naturel ou... Vous avez le luxe, vraiment, d'attendre jusqu'à l'automne ?
Écoutez, moi, pour l'instant, je m'occupe des élections régionales.
Hein, et donc, votre non-réponse en dit long.
Et après les régionales, on s'occupera du national.
J'ai posé la question différemment.
Oui.
Est-ce que pour vous, il n'y a pas de candidat naturel de la droite, là, déjà, maintenant ?
Écoutez, moi, j'ai une préférence pour M. Barouin. Je l'ai toujours dit, l'ai toujours réaffirmé.
C'est dommage, donc, il semblerait qu'il ait quand même des réticences à y aller, plus que cela. Ou alors, vous avez de nouvelles informations ce matin.
Eh bien, écoutez, on verra ce que disent les 15 000 personnes, là, puisque c'est un mélange de droite, de sondage, et sur les modalités de cette enquête, on va voir comment ça avance. Et on verra si M. Barouin, dans cette situation-là, se retrouve en situation positive.
Ouais, mais du tout, M. Muselier, pour conclure, est-ce que pour vous, le candidat de droite n'est pas déjà à l'Élysée ? En ce moment
moi, en tout cas, ce n'est pas un candidat de droite pour moi. Hein. C'est un candidat qui est issu quand même de l'ancien gouvernement de M. Hollande, qui est président de la République et qui a créé son propre parti.
Donc Emmanuel Macron n'est pas un homme de droite pour vous ?
Ça dépend sur quoi. Hein. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que si vous regardez l'action qui est faite par le ministère de l'économie, on est plutôt à droite. Si vous regardez l'action du Premier ministre, on est plutôt dans la décentralisation, ce qui me va assez bien. Si on est dans l'action du président de la République, on voit bien que lui, c'est un gros recentralisateur. Et donc, c'est pas tout blanc ou tout noir. En l'occurrence, pour ma part, je suis LR et je suivrai la démarche de ma famille politique.
Merci Renaud Muselier. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne journée
Merci
à vous.
Merci pour votre invitation.
Ainsi qu'à nos auditeurs. Et je remercie également Stéphane Frangy qui nous a permis de réaliser dans de bonnes conditions ce duplex. Merci encore.
Il est 8h28 sur Europe 1. À suivre le rappel de l'info Marion Calais et le journal de l'Euro J-1. Ça y est, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
8h30 sur Europe 1, le rappel des grands titres de l'actualité, Marion Calais.
Un rapport de 27 pages et des défaillances enchaînent. La mission d'inspection sur le féminicide de Mérignac le mois dernier a rendu ses conclusions hier soir. Pointé notamment une mauvaise communication entre police et justice qui a par exemple conduit à estimer que la future victime, malgré ses plaintes, n'était pas prioritaire pour se voir attribuer un téléphone grave danger. Dans la foulée de ce rapport, le gouvernement a annoncé la création d'un fichier national des conjoints violents. Le marché de l'emploi au premier trimestre fait mieux que prévu, 88 000 créations nettes entre fin décembre et fin mars selon l'INSEE, contre 57 000 attendus au départ. Le procès aujourd'hui du gifleur d'Emmanuel Macron, comparution immédiate prévue cet après-midi, et puis une clause controversée et des recours qui se multipliaient. Cette fois, AXA va débloquer 300 millions d'euros pour indemniser 15 000 restaurateurs obligés de fermer pendant la pandémie. Annonce tout à l'heure à 7h40 sur Europe 1 du patron de l'assureur.
La météo, Laurent Cabrol.
Oui, avec un temps dans l'ensemble orageux, mais orageux ponctuellement. Alors, il ne s'agit pas d'une zone orageuse qui va envahir toute la France, ce n'est pas cela. La journée s'annonce chaude, s'annonce ensoleillée pour beaucoup, même pour tous nos amis, mais dans l'ensemble quand même, ces orages seront ponctuels dans certaines contrées comme l'Alsace, les Vosges, le Jura, la région Rhône-Alpes et l'Auvergne, et pas seulement en montagne, hein, aussi en plaine. La vallée du Rhône sera touchée aussi par quelques orages, les Alpes du Sud, le massif Corse, mais aussi la vallée de la Loire, pratiquement jusqu'aux portes de la capitale. Donc, ces orages, je le disais, sont des orages isolés, ça ne veut dire que ça veut dire simplement que ils pourront éclater, et puis qu'ensuite le beau temps revient immédiatement derrière. Donc, vous voyez que ça n'est pas quand même quelque chose de dramatique, sauf quand ils sont très 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 violents, comme ce fut le cas à Ferrette dans le Haut-Rhin, près d'Alkirch, ces jours derniers. Je voudrais vous donner maintenant, pour terminer, les températures. Température maximale, 22 à Biarritz, 23 à Cabourg, 25 à Sochaux, 26 à Valenciennes, 27 à Nice, à Pontivy, à Paris, Nevers, Nancy, Nantes, Bordeaux, Lyon, Niort, entre 28 et 29, 30 à Marseille, 32 à Arles et 33 degrés à Castelsarrasin.
Merci Laurent Cabrol, 8h33 sur Europe 1.
Retrouvez le journal de l'Euro avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Bon, ça y est, on y est, J-1 avant les débuts de la compétition à Rome. On y était dans le journal de 8h avec Simon Rubin. L'actu des Bleus d'abord et le grand retour en forme d'un joueur pas comme les autres.
Oui, il n'a pas marqué mardi soir face aux Bulgares, mais il était partout malgré une saison en dents de scie. Eh bien, Paul Pogba arrive lancé à pleine vitesse. Alors c'est évidemment une excellente nouvelle pour les Bleus quand on sait le rôle que le milieu de terrain de Manchester United avait joué dans la conquête du titre mondial en 2018. Et cela n'a évidemment pas échappé à notre consultant Giroud.
Pogba, je l'ai trouvé mieux que bien, excellent. J'ai trouvé qu'il était bien meilleur que d'habitude. C'est vraiment un retour qui fait plaisir. Il avait beaucoup d'allant, il a réussi presque tous ses dribbles, il a fait des perforations. Moi, j'ai beaucoup aimé Pogba.
Et Pogba qui sera justement cet après-midi en conférence de presse à Clairefontaine.
Ce qui a frappé aussi face aux Bulgares, c'est la fraîcheur physique des joueurs français.
Oui, et pour tenter de l'expliquer, nous avons rencontré le préparateur physique des Bleus. On pensait que les joueurs allaient arriver éreintés après une saison longue et très particulière, avec notamment un calendrier bouleversé à cause du Covid. Eh bien, pas du tout. Les Français sont au top et c'est capital, nous assure Cyril Moine.
Agréablement surpris, je pense qu'ils ont été très sérieux aussi au cours des dernières semaines par rapport à leur fin de championnat, qu'ils ont mis tout en œuvre pour arriver en forme pour cet Euro. Donc non, je suis très agréablement surpris par l'état du groupe. L'équipe qui sera la plus fraîche physiquement, entre guillemets, ou qui aura la plus grosse capacité physique avant l'Euro, ça sera, j'espère, celle qui terminera le mieux.
Alors on ne sait pas si le Portugal, futur adversaire des Bleus, ira au bout, mais les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont surclassé Israël hier soir 4-0 avec notamment un but du monument. C'est son 104e en sélection et le record du monde historique n'est plus très loin.
Comme chaque matin, le trombinoscope des Bleus avec l'adjoint de Didier Deschamps.
Oui, après Hugo Lloris et Lucas Hernandez, Guy Stéphane nous présente aujourd'hui l'un des rocs de l'équipe de France, le défenseur central du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe, de plus en plus redoutable et redouté.
Presnel, c'est aussi un guerrier quelque part. C'est un joueur qui s'affirme de plus en plus, qui devient de plus en plus professionnel dans son approche, qui mûrit, qui gagne en maturité. Je pense qu'il devrait connaître de belles années devant lui.
On termine, Jean-François, avec le programme des Bleus. C'est une journée très spéciale à Clairefontaine aujourd'hui.
Oui, avec la visite de Brigitte et Emmanuel Macron. C'est un rituel pour les présidents de la République depuis plus de 20 ans maintenant. Au programme, le déjeuner au château, la remise sans doute du traditionnel maillot dédicacé, le message d'encouragement. Il sera ensuite l'heure de s'entraîner, le tout à 8 clos total. Vous l'imaginez, la zone est totalement sécurisée.
Et demain, donc, ouverture de cet Euro 2020, ouais, puisqu'on l'appelle comme ça.
Italie-Turquie, le match d'ouverture et pendant 30 jours sur Europe 1. Toutes les soirées, 20h, 23h30 avec nos consultants, nos experts.
Et tous les matins, le journal de l'Euro, c'est à 8h30. Merci Jean-François Pérez.
Bonne journée.
Sur Europe 1, 8h36.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Et le docteur Jimmy Mohamed est avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre santé, on va prendre soin de notre foie ce matin grâce à vos conseils et à l'occasion de la journée mondiale consacrée à ce qu'on appelle la maladie du soda.
Oui, cette maladie du soda, on l'appelle aussi la NASH, pour stéatose hépatique non alcoolique. Alors derrière ce nom un peu compliqué, eh bien se cache un phénomène assez simple, c'est l'usure prématurée de votre foie qui va aboutir à une cirrhose sans jamais avoir bu une seule goutte d'alcool. Environ 1 million de Français souffrent de cette maladie du soda, parfois même sans le savoir, et 10% d'entre eux sont au stade de cette fameuse cirrhose.
Alors c'est ce qu'on appelle aussi la maladie du foie gras.
Oui, le foie gras, c'est le stade qui va précéder cette fameuse maladie du soda. On estime d'ailleurs que 10 millions de Français ont un foie gras, c'est dire l'ampleur du phénomène. Alors pour faire très simple, le foie, eh bien, il a un rôle de stockage et de transformation des sucres. Sauf qu'avec nos modes de vie et notre alimentation de plus en plus industrialisée, eh bien, nous mangeons de plus en plus mal et surtout des aliments de plus en plus caloriques. Le foie va essayer dans un premier temps de stocker l'excès de calories consommées. Mais au bout d'un moment, eh bien, ses capacités vont vite être dépassées et il va commencer tout simplement à s'engraisser. Avec le temps, cette graisse autour du foie va provoquer de l'inflammation qui peu à peu va le détruire et aboutir à la cirrhose.
Alors du coup, on consulte qui dans ces cas-là et dans un premier temps ?
Eh bien, si jamais vous avez un foie gras ou une maladie du soda, je vous recommande d'aller voir votre cardiologue. Alors, je vais être très honnête, le foie n'intéresse très peu les cardiologues, mais au stade de la maladie du soda, eh bien, les patients ont un risque beaucoup plus élevé de faire des maladies cardiovasculaires. L'explication, elle est plutôt simple. Tout ce qui est gras et tout ce gras va s'accumuler dans votre foie, mais ça va aussi s'accumuler dans vos artères qui vont plus facilement se boucher. Et je vous rappelle aussi que la maladie du soda ne donne quasiment jamais aucun symptôme, mais qu'une simple prise de sang chez votre médecin généraliste permet de faire le diagnostic. Enfin, sachez que le meilleur traitement reste la prévention et que c'est pour cela qu'on vous recommande régulièrement d'avoir une activité physique régulière et puis une alimentation variée pour prendre soin de votre foie.
Voilà, on en revient toujours à ça, l'activité physique et l'alimentation. Jimmy Mohamed, on vous retrouve à 15h dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez. À tout à l'heure. Il est 9h20. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète des solutions positives avec vous chaque matin. Fanny, ce matin, voilà une stratégie assez étonnante d'un point de vue écologique. Des camions pour organiser le sauvetage des saumons.
Oui, face à la sécheresse, le transport des saumons en camion s'impose. C'est une solution aussi atypique qu'indispensable qu'applique la Californie à cause de la sécheresse. Les autorités ont recours à une mobilisation conséquente de véhicules pour déplacer les saumons. Près de 150 camions-citernes vont acheminer 17 millions de saumons sur 150 km jusqu'à la fin juin. Une méthode à la facture écologique importante, mais qui porte ses fruits puisque le taux de survie des saumons est de 85%.
Alors, quelques explications, Fanny. Ce transport en camion, il vient pallier l'incapacité des saumons à descendre les cours d'eau pour rejoindre l'océan.
Alors, commençons par nous rappeler le cycle de vie des saumons. Ils se reproduisent et naissent en amont des rivières avant de descendre jusqu'à l'océan. Là, ils grandissent quelques années avant de rebrousser chemin, c'est-à-dire de remonter les rivières pour retourner se reproduire exactement là où ils sont nés. Mais la sécheresse a été telle qu'il est devenu difficile pour eux de remonter les rivières, car les niveaux d'eau sont bien trop bas par endroits, au point que les saumons ont même du mal à descendre pour rejoindre la baie de San Francisco jusqu'à l'océan.
Parce que sur la côte ouest américaine, l'exploitation des ressources est telle que ses effets se font ressentir jusqu'au Mexique.
Exactement. Cette année, 97% de la Californie est concernée par une forme de sécheresse intense. L'image la plus représentative est celle du fleuve Colorado. Normalement, celui-ci prend sa source dans les Rocheuses américaines, traverse 5 États, puis perce la frontière du Mexique pour se déverser dans l'océan. Sauf qu'avant même d'atteindre l'océan, par le biais du golfe de Californie, le Colorado est asséché. Ce fleuve n'arrive même plus à atteindre le Pacifique. Et pour cause, il est utilisé pour satisfaire les besoins de plus en plus important de 30 millions d'Américains. Les prélèvements effectués en amont de la frontière sont tels que les champs agricoles des deux côtés de la frontière sont jaunis et les municipalités locales rationnent l'eau de leurs habitants avec des bidons désormais plus précieux que le pétrole. Les usages de l'eau du Colorado sont nombreux, mais un poste de dépense sort du lot, c'est l'agriculture et notamment les cultures servant à nourrir les vaches laitières et les bœufs. La survie des espèces aquatiques et notamment des saumons sauvages dépendrait donc en grande partie de notre réduction de consommation de viande.
Voilà le sauvetage des saumons. Merci à vous Fanny Agostini, notre planète avec vous. À demain. 8h43, Nicolas Canteloup est prêt, Julie aussi. La revue de presse dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
8h46, voici Nicolas Canteloup et Julie Larocque-Presque.
Et oui, car c'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et bien, on vous retrouve, Sébastien Krebs, pour l'actualité, le rappel.
Non, on retrouve pas Sébastien Krebs, on retrouve Mathieu Béliard. Ah, Julie, allons. Parce que tu sais, Julie, j'ai beau être en vacances, je reste toujours très professionnel. Je peux, tu sais, travailler en maillot avec un cocktail fraise papaye melon. Hein. Je peux même bosser torse nu. Je peux vous donner le titre tout en me passant de la crème indice 50. Allez, l'info du jour, c'est bien sûr, vous le savez, Jean Castex, qui est un cas contact. Il doit se placer à l'isolement 7 jours. Ouais. C'est quand même pas de chance. Il avait pourtant juste visité 28 restos, 12 salles de sport et 9 bibliothèques. Hein. Non, mais du coup, avec le nombre de gens qu'il a croisés, on va devoir reconfiner pile au moment de la réouverture. C'est fou, ça, quand même.
Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai.
Mais comment il a fait son compte, mon Jeannot? Mais il est nigo. Mais c'est invraisemblable. Il est où, le gars qui a giflé? Le mec qui gifle? On peut pas lui envoyer le mec qui gifle? Non, voilà. Monsieur le Président. Du calme, monsieur le Président. D'autant que l'actualité, c'est toujours effectivement la gifle à Emmanuel Macron, président de la République, et ce cri étonnant, Montjoie, Saint-Denis, dont on peine à comprendre à quoi il fait référence aujourd'hui.
Oui, Montjoie, Saint-Denis. Je vais vous éclairer, oui. Moi, l'homme des expressions. Oui, aujourd'hui, je vous explique la signification de ce cri royaliste qui demande la protection de Saint-Denis. Alors, qui était, vous le savez, le saint patron des rois de France. Et oui, oui. On apprend en s'amusant. C'est ça qui est bien. Aujourd'hui, Saint-Denis est toujours associé aux bagarres, notamment avec la Seine-Saint-Denis.
Vous
voyez, si vous promenez la nuit en Seine-Saint-Denis, vous avez toutes les chances de vous prendre une petite pichenette, voyez-vous, hein, de vous faire voler votre portefeuille. Montjoie Saint-Denis peut se traduire aussi par « Allez les gars, on va leur niquer la tronche !» ou alors « Banzai, bande de bâtards !» selon le contexte de la bataille. En Angleterre, on traduit « Montjoie Saint-Denis » par « I gonna fuck your ass !» et en italien par « Vaffanculo !» Quelle joie, franchement, avez-vous, ma chère Gilles, mon cher Sébastien, quelle joie avec vous de parler avec nos auditeurs un peu d'histoire et de quitter un peu ce monde fait de violence et de vulgarité.
Oui, comme vous dites, Stéphane. Allez, on vous retrouve à 16h, hein, sur Europe 1.
Oui, 16h.
Avec Noël, à tout à l'heure. François Hollande a assuré Emmanuel Macron de son soutien après la gifle qu'il a reçue. Bonjour, monsieur Hollande.
Hey, bonjour. Effectivement, je condamne. Il n'y a rien de drôle aux faits gravissimes qui se sont déroulés. Je condamne ce geste odieux. Vous savez, quand j'ai vu cet homme gifler le président de la République, président Macron, j'ai pensé tout de suite que j'aimerais être à la place de cet homme qui a mis une claque dans la gueule au gamin. En plus, bien sûr, on aimerait être à sa place, mais on ne peut pas se permettre ce genre de choses. D'ailleurs, on voit, franchement, Mme Leclerc, M. Krebs, M. la rédaction, on voit que la violence a franchi un cran. Avec le fait qu'un homme, oui, un homme, j'ose dire le mot, un homme, ose gifler le président public.
Non, mais c'est-à-dire
des gifles, j'en dis prise. Mm. Mais jamais par un homme. Les femmes, oui.
Ah, d'accord.
Tout d'abord, je ne veux pas dévoiler ma vie privée de façon indécente, mais il y a eu Ségolène, lorsqu'elle a pris pour Valoche. Petite claque. Et ensuite, Valoche, quand elle a pris pour Juju. Nouveau, une petite claque. Mais c'était, j'ai apprécié, c'était sur l'autre joue. Il y avait une forme d'équilibre. Juju, lorsqu'elle a découvert la couverture de Voici avec la danseuse, une petite claque. Enfin, entre les deux, c'était plutôt un bourre-pif, vous voyez, au milieu des deux. Le centre, vous voyez, tout ça était très équilibré. Non, c'était donc déjà, vous l'avez compris, très violent. On a franchi un stade. Rien ne justifie la violence à l'égard d'un président de la République. Même une trace de rouge à lèvres sur un col de chemise. Je vous le dis de façon solennelle.
Eh ben, très bien, merci monsieur Hollande.
Vous en prie. Gifle, quoi. Oui, c'est une belle conclusion, monsieur Cabrol.
Qu'est-ce qu'il dit?
Il a dit boîte à
gifle. Bon, la vidéo de la gifle, justement, Emmanuel Macron a fait le tour du web. Un détail a retenu notre attention. Juste après avoir pris la claque, Emmanuel Macron semble avoir eu envie de répondre. Et son garde du corps le retient. Bonjour monsieur le Président.
Trois. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Et trois.
et 4 que j'ai eu peur, que j'ai été impressionné, 5 et 6 que je le marave. Mais moi je le marave quand il veut, Godefroy de mon couillon. Hein, si tu m'écoutes, tu viens. Hein, on se démarre quand tu veux sur un parking, juste toi et moi en mode Fight Club. Et 7 et 8.
Mais qu'est-ce que vous faites?
Non, mais je fais mes abdos.
Ah. D'accord. Alors, on en sait un peu plus sur votre agresseur. Hein. C'est un amateur d'arts martiaux historiques européens. Il a même fondé 2 associations sur ce thème.
Oui, il a fondé des associations... Vous plaisantez ou quoi? Il a fondé des associations d'arts martiaux.
Oui.
Et ben, si vous êtes inscrit dedans, changez de prof, hein, parce que vous avez vu cette petite gifle de fillette. Non, mais même votre petite nièce de 6 ans, elle se bat mieux que ça, franchement. Moi, depuis hier, je peux vous dire, c'est du sérieux. J'ai commencé le Krav Maga. Oula. Je sais déjà faire perdre connaissance à un agresseur de 17 façons différentes. Et immobiliser un homme avec une simple cuillère à café.
Oula. Alors, avec cette gifle, vos déplacements de ces derniers jours faisaient déjà polémique. Vos opposants, dont Marine Le Pen, affirment que vous êtes déjà en campagne. Mais, qu'est-ce que vous lui répondez?
Mais non, mais déjà en campagne. Mais écoutez, c'est ridicule cette polémique. Une campagne électorale, qu'est-ce que c'est? C'était quand un homme ou une femme politique se promène dans le territoire, rencontre les Français, prend des bains de foule sur les marchés en parlant très fort à des petites vieilles aux fenêtres du deuxième étage. Ça va vous? Vous allez bien madame? Oui, à la bonne heure, c'est très joli ici. Oui, oui, on va faire les réformes, vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas d'aller voter. Ça, oui, madame Julie, ça c'est une campagne.
Bah vous faites quoi? Vous faites la même chose?
Mais non, mais moi, ça n'a rien à voir. Moi, je me promène, oui, dans les territoires, je rencontre des Français,
oui,
bien sûr.
Oui.
C'est ma mission. Je prends des bains de foule sur les marchés en parlant très fort à des petites vieilles aux fenêtres du deuxième étage. Et je leur dis quoi? Je leur dis, ça va, vous? Vous allez bien? La bonne heure, c'est très joli ici. Oui, oui, on va faire les réformes, vous inquiétez pas.
Bah alors, c'est quoi la différence?
Enfin, à la fin, je n'ai pas dit, n'oubliez pas d'aller voter. C'est une vraie différence, donc je ne suis pas en campagne. C'est terrible de devoir tout expliquer en permanence.
Ah, merci pour ces explications, merci Monsieur le Président. Allez, on va reparler de la victoire de l'équipe de France de foot avant-hier contre la Bulgarie, 3-0. Bonjour Didier Deschamps, elle fait peur cette équipe de France, hein?
Non, écoutez, s'il vous plaît, de grâce, Madame Chuline, arrêtez de dire qu'elle fait peur, arrêtez de dire ça, c'est pas sympa.
Non mais vous n'aimez pas qu'on dise que l'équipe de France est la grande favorite, hein? Vous avez rembarré José Mourinho qui avait dit ça.
Mais bien sûr, parce que tout le monde dit qu'on est imbattable, qu'on a la meilleure équipe. Résultat, si on gagne, eh ben ce ne sera pas une surprise, et puis si on perd, eh ben ça va être de ma faute.
Enfin, Didier, mais ouvre les yeux, tu vois bien qu'ils le font exprès.
Mais hein. Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous entendez par « ils le font exprès »
Mais ils, mais qui
c'est
ils
qui
mais eux, ceux qui décident secrètement, là-haut, là où vous savez.
Là-haut.
Mais ben là-haut, là-haut.
Où, là-haut.
Mais vous voyez pas leur jeu, là? Ils disent que l'équipe de France est la grande favorite. Hein, comme ça, si on gagne pas l'euro, on va dire que c'est à cause du musulman Benzema. Voilà, tout est écrit à l'avance. C'est du complot, tout ça. C'est du complot.
C'est bon, merci Jean-Luc Mélenchon. Allez, on va faire un petit tour du côté de Roland-Garros avec 2 énormes exclus. Nelson Monfort, bonjour.
Alors attendez, excusez-moi, mes lunettes ne sont pas sur...
Alors, vous êtes aux côtés de Raphaël Nadal qui va vous dire quelques mots en français, je crois.
Oui, alors, écoutez, oui, effectivement, nous avons, oui, je suis tout à côté de Rafa qui a gagné, vous savez, 13 fois Roland-Garros, 13 fois de plus, ça veut dire quoi, 13 fois de plus que mon fils Gasquet, Simon, Tsonga, père, Pouille, Gaston, et encore, ça ne marche même pas parce que, parce que 13 fois 0, ça fait 0, ma chérie. Voilà, Rafa, vous parlez, bon, je suis à côté de Raphaël,
oui.
Raphaël, vous parlez de plus en plus français dans vos interviews, c'est remarquable, mon cher Raphaël.
Si, c'est vrai. Et parce que je suis très content de jouer Roland, parce que le public français, Roland Garros, pour moi, ici, sous le Philippe Châtrier,
oui,
très spécial.
Oui.
Merci les staff de partager ces moments avec moi.
Bien sûr, oui, oui. Écoutez, vous l'avez entendu, ma chère Julie, c'est très touchant, ces mots en français
très
de notre
touchant.
Cher Raphaël,
ouais,
Nadal. Vous l'aurez noté, il y a beaucoup moins de fautes dans une phrase de Raphaël que dans un jeu de service de Benoît Paire.
Et puis, deuxième exclu, Roger Federer est à vos côtés.
Oui, oui, je suis tout à côté de Roger. Roger,
oui.
Roger, que comment allez-vous, mon cher Roger? Roger?
Oui, j'aime beaucoup de jouer Roland, mais tu sais, il y a un âge, c'est important que j'écoute mon corps, même si c'est vrai, derrière, je dois suspendre la compétition. Oui, écoutez, on comprend tout à fait. Puis c'est exactement ce qu'a fait Mathieu Béliard. Il a écouté son corps et il a suspendu la compétition pendant une semaine. Je ne sais pas de qui tu parles. Je ne sais pas qui c'est celui que tu parles là. Mais bon, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Maintenant, je vais te dire une chose. J'écoute mon genou là et mon genou, tu vois, il me confirme. Il me dit d'arrêter la compétition.
Oui, alors, ma chère Julie, mon cher Sébastien, mon cher Laurent, vous avez entendu, là, Roger est en train de parler à son genou. Donc, je crois, mon analyse, c'est que son problème, ce n'est pas l'arthrose, c'est qu'il est un petit peu zinzin. Je pense que c'est Alzheimer le souci. Et puis, vous savez, jouer sans genou, ce n'est pas simple, mais nos Français font encore mieux. Ils arrivent à jouer sans coup droit, sans revers, sans passing et sans service. Et pourtant, il y en a toujours qui arrivent à se qualifier pour Roland. C'est extraordinaire. On est vraiment des champions. À vous, les studios, à vous, Paris.
Nicolas Canteloup, la revue de presse avec Julie. À demain. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Sébastien.
Quel est le programme de Culture Média?
Alors, je vous apprends rien. Les 20 à 27 juin, ce seront les élections régionales et les départementales. À cette occasion, notre info média du jour va s'intéresser au dispositif d'exception de France 3 Région. Et quand je dis d'exception, le mot est vrai. 120 débats en direct, 2000 reportages dans les journaux de la chaîne sont prévus. On en parle avec la directrice de l'info régionale de France 3, c'est Valérie Giacomello. Et au sommaire également, le fameux Toudoum de Netflix. Nous serons avec le directeur des séries originales de la plateforme, Damien Couvreur. Il va tout nous dire sur les prochaines créations, dont la suite de Lupin, série au succès international, 76 millions de vues dans le monde, incarnée par Omar Sy. Et la partie 2 démarre demain. Et puis la chanteuse Hélène Ségara pour Karma, son nouvel album qu'elle décrit comme un long métrage sonore.
Culture Média, c'est à suivre juste après le journal de 9h. Je vous souhaite une très belle journée. À demain pour le 7-9. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.